monde il est beau, tout le monde il est gentil.
On en a vu de toutes les couleurs, des révolutions, ces dernières décennies. Tout spécialement dans les pays de l'Est, pour ensuite essaimer dans les peuples d'Orient. Et si elles ont passé de la couleur à la célébration des réseaux sociaux de télécommunication, elles n'ont peut-être pas tant changé du point de vue de l'instrumentalisation. Sans sombrer dans l'esprit paranoïaque, on peut effectivement se souvenir que bon nombre de révolutions de couleurs ont assez justement coïncidé avec la fin de l'URSS, de l'histoire donc, pour certains. Il fallait donc bien insister sur l'importance de l'abandon d'éventuels derniers reliquats de communisme pour enlever le suffrage, enfin universalisé, des bienfaits du libre marché. Quant au soulèvement populaire survenu en Orient, il faut là se souvenir que tous ces printemps, dont on a ensuite tué les hivers, ont coïncidé, eux, avec la pénétration souhaitée par l'industrie du même nom, du numérique, dans des nations encore relativement peu converties à ce culte. Ce que ces révolutions se sont empressées de changer en les faisant abandonner une religion pour passer à une autre, celle des bienfaits technologiques importés de l'Occident. Des instrumentalisations, donc, de divers mécontentements populaires en vue d'accéder à de nouvelles satisfactions d'émancipation, il semble bien qu'il y en ait eu, qu'il y en a et qu'il y en aura encore. Et c'est de cette question que traite l'article intitulé « Changement de régime clé en main » que nous vous proposons de ce billet. Écrit par Anna Otasevic, publié dans Le Monde diplomatique de décembre 2019, il vous est lu par Jean-Luc.
Changement de régime, clé en main. Depuis la fin de la guerre froide, les pouvoirs solidement établis affrontent une méthode de déstabilisation nouvelle. Une résistance fondée sur la non-violence active. De Belgrade au Caire, de Caracas à Kiev, ou encore tout récemment en Bolivie, la trajectoire d'un petit groupe d'étudiants serbes rappelle le rôle que peut jouer une avant-garde déterminée. Mais au nom de quelles idées et avec quel soutien? Leur saga commence un jour d'automne 1998, dans un café du centre de Belgrade. La plupart des jeunes présents ont fait leurs armes dans les manifestations étudiantes de 1992, puis de 1996-1997. En fondant le mouvement Otpor, Résistance, ils veulent désormais faire tomber le président yougoslave Slobodan Milosevic, qui, au pouvoir depuis 1986, vient de reprendre en main les universités. Pour impressionner une fille du mouvement, l'un des étudiants, M. Nenad Petrovic Duda, esquisse sur un bout de papier un point noir levé. Un matin de novembre, des pochoirs du symbole d'Otpor apparaissent sur les murs du centre-ville, accompagnés de slogans contre le régime. Quatre jeunes militants sont arrêtés et condamnés à 15 jours de prison. Le point levé est repris à la une du quotidien Dveni Telegraph, dont le rédacteur en chef, Slavko Kurovidja, est convoqué au tribunal. Otpor est apparu comme une force nouvelle. Avec ce procès, nous sommes rapidement devenus célèbres, raconte M. Srda Popovic, à l'époque étudiant en biologie marine et musicien qui rêvait de devenir une vedette du rock, avant de se lancer en politique. Cette force comptait au départ une trentaine d'étudiants. Un an plus tard, des milliers de personnes brandissaient le symbole d'Otpor dans tout le pays. Nous avons vite monté une infrastructure dans les centres universitaires. Les partis d'opposition étaient désunis. La jeunesse venait chez nous, explique le cofondateur du mouvement. La petite taille de l'organisation et son fonctionnement horizontal, sans chef officiel, se révèlent des atouts pour affaiblir et discréditer le régime par la satire. le mouvement cherche avant tout à mobiliser la population et surtout la jeunesse qui affiche son désintérêt pour la vie politique. Haute-Port rassemble aussi bien des monarchistes ou des sociodémocrates que des libéraux. Une absence de colonne vertébrale revendiquée. Nous ne faisions rien de trop politique parce que c'est ennuyeux. Nous voulions que nos interventions soient distrayantes et surtout qu'elles fassent rire, dit M. Popovitch, qui voue un culte au Monty Python. Quand, par exemple, un groupe d'Haute-Port fait défiler un âne affublé de fausses décorations militaires à Kruševac, en Serbie centrale, la police arrête les jeunes, mais ne sait que faire de l'âne. Dans une scène rocambolesque, des policiers ont essayé de pousser l'animal dans un fourgon à coups de matraque, raconte M. Srdan Milivojević, un ancien militant. La foule criait « Ne touchez pas au héros national !» Les coups d'éclat humoristique, suivis d'arrestations, font la une des journaux, tandis que la répression policière contribue à éroder la légitimité du pouvoir en provoquant des divisions chez les partisans de Milošević. La génération Haute-Port a grandi dans une époque marquée par les guerres fratricides de l'ex-Yougoslavie et par l'isolement international. En guise de projet politique, elle rêve d'une vie normale. Nous voyons sur les chaînes satellitaires comment vivaient les gens de notre génération à Paris ou à Londres, quand chez nous, les étagères des magasins restaient vides. Nous nous sommes battus pour notre survie, raconte M. Preda Glezic, un autre membre du premier cercle d'Haute-Port. Nous ne nous sommes pas battus pour quelque chose, mais contre quelqu'un, résume M. Ivan Marovic, l'ancien porte-parole officieux d'Haute-Port. En 1999, la guerre du Kosovo et les bombardements de la République fédérale de Yougoslavie par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, marquent un tournant. Le 24 mars 1999, je me suis réveillé pour constater que la France n'était plus dans le cœur de la Serbie, mais dans son ciel, d'où elle jetait des centaines de bombes afin de punir le régime, se souvient M. Milivojević. Vous ne vous engagez pas dans un travail d'opposition lorsque votre pays est attaqué, ajoute M. Popovic, dont la mère échappe de peu au bombardement visant la télévision nationale où elle travaille comme journaliste. Lui se cache, tandis que Kurovidja est assassiné par des sbires du régime. Après cette période de stupeur, Haute-Port est la première force politique à passer à l'action. Renonçons au qualificatif étudiant, dont le but d'élargir sa base et de canaliser le mécontentement et en dépit d'une répression accrue, il annonce la création d'un front uni contre le pouvoir, avec des partis politiques, des associations, des médias indépendants et des syndicats. Puis, au milieu de l'année 2000, Haute-Port se transforme en un mouvement fort de nombreux adhérents et capable de jouer un rôle décisif dans l'opposition. Une organisation éducative. Soumis à une pression intérieure et extérieure, Milošević annonce une élection anticipée en septembre 2000. Haute-Port contribue à la participation électorale et à la chute du président. M. Popovic entre au Parlement comme représentant du Parti démocrate. Il devient conseiller du Premier ministre Zoran Dindic, puis membre du cabinet du ministre de l'écologie et conseiller pour le développement durable auprès du vice-premier ministre. Les années épiques sont passées. Le mouvement tente de se transformer en parti. Mais les élections parlementaires de 2003 tournent au fiasco. Il remporte 1,6% des suffrages. Toutefois, ce n'est pas la fin de l'aventure pour celui qui se présente toujours comme un révolutionnaire ordinaire. En 2003, M. Popovic crée le Centre pour les actions et stratégies non violentes appliquées, CANVAS, avec M. Slobodan Dinovic, un autre fondateur d'Haute-Port. Dans les années qui suivent, les instructeurs de CANVAS diffusent leur savoir-faire dans une cinquantaine de pays, dont la Géorgie, l'Ukraine, la Biélorussie, l'Albanie, la Russie, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Liban ou l'Égypte. Dans les locaux exigus de CANVAS, situé dans un centre commercial peu attrayant de Novi Beograd, Nouvelle-Belgrade, rien ne laisse aujourd'hui deviner un tel réseau. L'entraînement et la formation des activistes sont devenus notre profession, raconte M. Popovic. La première leçon vise à créer une unité à travers une vision forte de l'avenir. Je leur explique comment réunir des gens d'horizons idéologiques différents autour d'un but commun pour obtenir plus de 50% des voix. Quand il n'est pas là pour gérer son entreprise, Orion Telecom, M. Dinovitch donne des cours sur la lutte non violente quelque part dans le monde. Sur la liste figurent le Vietnam, le Zimbabwe, le Swaziland, la Syrie, la Somalie, l'Azerbaïdjan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Venezuela et l'Iran. Pour des raisons de sécurité, ces formations sont souvent organisées dans de gros hôtels de pays voisins. Les émissaires de Canvas enseignent la stratégie de changement de pouvoir par des méthodes non violentes. Ils sont persuadés qu'il n'existe pas de révolution spontanée réussie. Selon eux, tout se jouerait dans la planification et dans les tactiques employées. Comment créer l'unité, inciter à la désobéissance civile, organiser des boycotts? Quel slogan choisir? Comment utiliser la musique? Leur méthode comporte 4 phases. L'analyse de la situation, la conception de l'opération, ce qu'il faut faire, l'exécution, comment gagner, qui va faire quoi, quand, comment et pourquoi, et enfin les aspects techniques, logistique, coordination et communication. Ils identifient les particularités locales des piliers du pouvoir, police, armée, institutions, médias, et enseignent des tactiques pour persuader ceux qui y travaillent de désobéir, toujours en s'appuyant sur des exemples. Canvas promeut-il une vision du monde ? Nous ne sommes pas une organisation idéologique, mais éducative, répond M. Popovitch. La couleur politique des activistes importe peu. Nous vérifions juste qu'ils ne sont pas extrémistes, car les idéologies extrêmes n'ont pas de capacité de croissance dans une lutte non violente. L'équipe de Canvas est restreinte. 5 personnes, 5 salaires, des locaux et une connexion Internet gratuite. Des téléphones gratuits, détaille M. Popovitch. 12 personnes, issues de 4 pays, dispensent des formations. Et elles ne font pas que cela. Les Géorgiens enseignent par ailleurs, une Philippine milite aussi dans une ONG, ici à Belgrade. Un gars travaille dans l'informatique, un autre dirige une boîte de comptabilité. Les premiers clients sont venus d'Europe orientale. Le Fonds de l'éducation européenne, une fondation polonaise, contacte Canvas en septembre 2002 afin de former des militants du mouvement Zoubr qui souhaitent en finir avec le régime de M. Alexandre Loukachenko en Biélorussie. Mais les autorités de ce pays déclarent ses émissaires persona non grata 6 mois plus tard. Avant de participer à la Révolution des Roses et au départ d'Edouard Shevardnadze en novembre 2003, les militants géorgiens du mouvement Kmara, AC, ont suivi une formation en Serbie en juin 2003. Mais c'est surtout en Ukraine, durant l'automne 2003 et l'hiver 2004, que les méthodes serbes vont être appliquées à grande échelle. À leur tour, des Ukrainiens formeront des militants d'autres pays, Azerbaïdjan, Lituanie, Russie, Iran. Les changements de régime en Europe centrale ou orientale suscitent un intérêt dans le monde arabo-musulman, en Amérique du Sud ou en Afrique subsaharienne. Le point noir refait surface au Liban en 2005, à la veille de la révolution du Cèdre, puis aux Maldives 3 ans plus tard. En 2009, une quinzaine de militants égyptiens du mouvement du 6 avril et de Kefaya, ça suffit, arrivent à Belgrade pour étudier les stratégies qui pourraient les aider à renverser l'inamovible président Hosni Moubarak. Des ateliers ont lieu au bord du lac de Palic, près de la frontière hongroise. C'est un cas unique où le modèle a été repris dans son intégralité. Ils ont organisé 50 ateliers dans 15 villes égyptiennes, affirme M. Popovitch. La formation que nous avons suivie sur la désobéissance civile, la lutte non violente et les moyens d'abattre les piliers du système a influencé la manière dont notre mouvement a agi, atteste M. Tarek El Kouli, ancien membre du 6 avril, responsable de l'organisation des manifestations. Pris de vitesse par les événements en Tunisie, leur caractère spontané et le renversement soudain du président Zine al-Abidine Ben Ali, les jeunes militants se lancent à l'assaut de la place Tahrir, au Caire, en janvier 2011. Ils portent des banderoles où figurent le poing serré et le slogan « Le poing secoue le Caire ». Un fascicule circule sur Internet, détaillant avec précision les lieux à prendre, la radio-télévision égyptienne, les commissariats de police, le palais présidentiel et les manières de contourner les forces de l'ordre. Les manifestants sont incités à porter des roses, chanter des slogans positifs, embrasser les soldats et persuader les policiers de changer de camp. L'empreinte de Canvas est bien là. Après la chute de M. Moubarak, certains militants finiront par rejoindre le maréchal putschiste Abdel Fattah al-Sissi, tandis que d'autres se retrouveront en prison. Considéré par certains comme un architecte secret du printemps arabe, M. Popovitch pense que l'échec s'explique par l'absence de projet. Il voulait seulement faire tomber Moubarak, mais il n'avait pas réfléchi à l'après. En Ukraine et en Serbie, c'était simple. Nous voulions vivre comme en Europe. Mais pour les pays arabes, il n'y a pas de modèle positif. Les frères musulmans et l'armée sont arrivés et les militants ont fini en prison. C'est triste à mourir. Soutien à l'opposition vénézuélienne. S'il conteste avoir formé directement le président autoproclamé du Venezuela, M. Juan Guaido, M. Popovitch reconnaît que l'opposant au régime est un ami. Évidemment que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à se battre contre un régime que même l'armée ne parvient plus à protéger de ses propres citoyens. Dès la réélection, pourtant incontestable, d'Hugo Chavez en décembre 2006, avec 62% des voix, Canvas a conseillé le mouvement de jeunesse vénézuélien Génération 2007 et travaillé avec les activistes vénézuéliens, notamment au Mexique et en Serbie. Plusieurs membres de l'équipe de M. Guaido ont suivi une formation à Belgrade en 2007. Madame Géraldine Alvarez, sa directrice de la communication, Madame Elisa Totaro, qui a travaillé sur la communication du mouvement étudiant en s'inspirant des méthodes et de l'identité visuelle d'Otpor, ou M. Rodrigo Diamanti, chargé de l'aide humanitaire en provenance d'Europe. Dans un texte de juin 2017, les responsables de Canvas exposent ce qui serait une stratégie efficace à leurs yeux. L'opposition au Venezuela devra parler avec la police, en utilisant la musique, les embrassades et les fleurs, et ne pas jeter sur elle de cocktails Molotov, de pierres ou de bombes de matière fécale. Dès septembre 2010, Canvas avait identifié la principale faiblesse structurelle du pays, la fourniture d'électricité. Les groupes d'opposition pourraient tirer profit de la situation. Des secteurs mécontents de l'armée pourraient se décider à intervenir, mais seulement dans une situation de contestation massive, selon le document. C'était la matrice des trois dernières tentatives de coup d'État. Là où l'armée pensait disposer d'un soutien suffisant, l'opinion publique n'a pas répondu positivement ou elle a répondu négativement, et le coup d'État a échoué. Après la mort de Chavez, en mars 2013, et la dégradation de l'économie, les tentatives de déstabilisation s'accentuent. En mars 2019, la centrale hydroélectrique Simón Bolívar tombe en panne. Caracas et la majeure partie du Venezuela plonge dans le noir. La dégradation de l'infrastructure identifiée dès 2010 était telle qu'une éventuelle intervention extérieure, informatique par exemple, pouvait ne pas être repérable. Le secrétaire d'État américain, Michael Pompeo, ne tarde pas à réagir sur Twitter. « Pas de nourriture, pas de médicaments, et maintenant pas d'électricité, la suite c'est pas de Maduro ». La lumière reviendra lorsque l'usurpation sera terminée, complète M. Guaido en lançant un appel aux forces armées. Deux mois plus tôt, M. William Brownfield, ancien ambassadeur américain à Caracas, l'encourageait dans ce sens. Pour la première fois, vous avez un dirigeant de l'opposition qui envoie un message clair aux forces armées et au pouvoir législatif. Il les veut du côté des anges et des bons gars. Ce cas montre comment les objectifs de Canvas se révèlent parfaitement compatibles avec ceux du gouvernement américain promu à travers l'Agence pour le développement international des États-Unis et son Bureau des initiatives de transition. Dans une note de novembre 2006 révélée par WikiLeaks, M. Brownfield décrivait la stratégie américaine au Venezuela. Renforcer les institutions démocratiques, pénétrer la base politique du régime, diviser le chavisme, protéger les intérêts vitaux des États-Unis, isoler Chavez internationalement. Avant de conclure, ces objectifs stratégiques représentent la partie la plus importante du travail de l'USAID au Venezuela. Si on retrouve la trace de Canvas en Bolivie ces derniers mois, il n'est jamais intervenu chez plusieurs alliés essentiels des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Pakistan. Pour comprendre l'influence de la petite équipe de Belgrade dans tant de pays, il faut revenir à la fin des années 1990. Un rapport spécial de l'Institut des États-Unis pour la paix du 14 avril 1999 nous met sur la piste. Le gouvernement des États-Unis devrait accroître sensiblement son soutien à la démocratie en République fédérale de Yougoslavie pour le faire passer de son niveau actuel d'environ 18 millions de dollars à 53 millions durant cette année fiscale. Ces fonds pourraient financer des voyages à l'étranger pour les dirigeants étudiants et soutenir des programmes d'études et des stages en Europe et aux États-Unis. Le rapport est illustré par un point levé, symbole d'Otpor. De nombreux acteurs internationaux avaient intérêt à faire tomber Slobodan Milosevic, explique M. Popovic. Nous avons eu des relations avec des gens sérieux dans l'administration Clinton, des gens et des organisations avec lesquels nous pouvions parler de politique et obtenir de l'argent, comme la Fondation nationale pour la démocratie, l'Institut républicain international et l'Institut national démocratique qui collaboraient avec les partis politiques et Freedom House qui travaillait avec les médias. Bien qu'officiellement non gouvernementales, ces quatre institutions sont directement issues des deux grands partis politiques américains ou financées par le Congrès et le gouvernement des États-Unis. L'ancien ambassadeur américain en Bulgarie, en Croatie et en Serbie, M. William Dale Montgomery, a raconté comment la secrétaire d'État de l'époque, Mme Madeleine Albright, avait fait du renversement de Milosevic une priorité en soutenant notamment Otpor. L'opposition s'est montrée avec Madeleine Albright. Vuk Drašković lui faisait le baise-main. La photo de la scène a été utilisée par le pouvoir. Ce type de rencontre pour prendre des photos, ce n'est pas du soutien. C'est pourquoi nous n'avons jamais pris de photos avec eux, commente M. Popovic. Nous ne savions pas comment renverser Milosevic, puis il a appelé à des élections anticipées et nous avons soudainement eu l'occasion de lancer une campagne ciblée contre lui, a raconté M. James C. O'Brien, alors envoyé spécial du président William Clinton dans les Balkans. Cet ancien directeur de la planification politique au département d'État est devenu depuis le vice-président d'Albright Stonebridge Group, l'une des nombreuses sociétés américaines fondées par les anciens fonctionnaires, représentants de l'armée et diplomates, qui sont revenus après la guerre pour acheter des entreprises publiques au Kosovo. Selon M. Paul B. McCarthy, à l'époque responsable régional de la NED, Otpor aurait reçu la plus grande partie des 3 millions de dollars dépensés par l'organisation américaine en Serbie à partir de septembre 1998. Ces fonds ont servi à la mise sur pied de manifestations et à la fabrication de matériel de propagande. T-shirts, affiches et autocollants reproduisant le poing serré, ainsi qu'à la formation et à la coordination des militants. Nous avons sorti 2 millions de tracts, il est fini, que nous avons distribués dans toute la Serbie. Nous avions des comités dans 162 lieux. Il s'agissait du plus grand réseau de militants. Aucun parti en Serbie n'en comptait autant. Quelqu'un a payé pour cela, de même que pour les bureaux, les téléphones portables, etc., raconte M. Lečić. La formation des activistes serbes comprenait des stages sur les stratégies de la lutte non-violente selon la doctrine de Gene Sharp, un politiste de l'université Harvard disparu en 2018 dont les ouvrages font référence dans ce domaine. Dans l'introduction à la troisième édition de son livre « De la dictature à la démocratie », Sharp écrit « Quand nous avons visité la Serbie après la chute du régime de Milosevic, on nous a dit que le livre avait exercé une grande influence sur l'opposition. Lors du séminaire qui se tint à Budapest durant l'été 2000, M. Popovic et d'autres dirigeants d'Otpor furent invités par l'IRI et firent la connaissance de M. Robert Elwey, un proche collaborateur de Sharp. Vétéran du Vietnam, ancien attaché militaire à Rangoon et colonel à la retraite, expert auprès des services de renseignement militaire américains, M. Elwey a formé les étudiants serbes en suivant la ligne de conduite de Sharp. La stratégie est tout aussi importante dans l'action non violente que dans l'action militaire. La version de M. Popovic diffère. Ils ne nous ont rien appris, insiste-t-il. Nous avons vu Elwey à Budapest durant 4 jours, ce qui a donné cette histoire selon laquelle les méchants américains étaient venus chez nous. Nous avions eu l'idée plus tôt. M. Popovic a depuis tissé des liens avec le colonel Elwey, devenu son ami et professeur, son Yoda personnel. Le colonel a même baptisé son chat Sergei, le prénom de M. Popovic. Il le prononce mal, s'amuse ce dernier, qui raconte la visite qu'il lui a rendue aux États-Unis et leur discussion sur les armes qu'il possède. En cela, c'est un vrai Américain. Nous blaguions en permanence à ce sujet. A-t-il hésité à coopérer avec un colonel de l'armée américaine ? Je ne le considère pas comme un colonel de l'armée, et quand bien même, l'idéologie d'Otpor était clairement non-violente. Dans le même ton, il définit la stratégie qu'ils enseignent tous deux comme une guerre par d'autres moyens. Une guerre asymétrique. Nous n'étions pas un groupe de gamins naïfs, mais des militants politiques sérieux. Selon le Washington Post, l'opération contre Milosevic aurait coûté 41 millions de dollars aux États-Unis. Ce fut le début d'un effort exceptionnel pour détrôner un chef d'État étranger, non pas à travers une opération secrète, à l'instar de celle que la CIA a menée en Iran ou au Guatemala, mais en utilisant les techniques d'une campagne électorale moderne. Tout un réseau international de collaborateurs participait à ce travail qui comprenait des organisations comme Freedom House, une instance financée par le gouvernement américain et l'Union européenne qui a pour vocation la défense des droits de la personne et la promotion de la démocratie, et des fondations privées telles que Ford, Carnegie, Rockefeller, l'Open Society Institute de M. George Soros ou la Mott Foundation. Le réseau comprenait également des ambassadeurs et des employés d'ambassade en lien avec les partis d'opposition et les représentants de la société civile. Les fonds et les soutiens extérieurs ne posent pas de problème à M. Popovic, car il s'agissait, selon lui, d'organisations qui travaillent dans la transparence. En revanche, le sujet provoque une réaction agacée chez M. Marovic. Mais vous travaillez pour qui ? Pour Poutine ? Cette aide est venue dans les derniers mois de notre combat contre Milosevic. Pourquoi la présenter comme cruciale ? C'est la machine de propagande du Kremlin qui raconte cela depuis la révolution en Ukraine, en 2004. Ils essayent de discréditer la lutte non violente en la présentant comme imposée de l'extérieur, lance l'ancien activiste. M. Popovic est beaucoup moins clair quand on lui demande d'où provient le financement de Canvas. Les coûts fixes, salaires et locaux sont financés par nos propres fonds. Pour pouvoir vivre de manière indépendante, ne pas courir après l'argent. S'agissant des projets, il ajoute « Nous avons travaillé avec plus de 30 organisations, sans plus de précision, excepté pour reconnaître le rôle de Freedom House en Égypte. » Sur le site de Canvas, seuls les amis sont listés, mais on ne peut pas recouper les aides provenant de l'étranger en Serbie. D'autres sources montrent toutefois que la branche américaine de la Fondation Roi Baudouin en Belgique a donné 2,5 millions de dollars à Canvas entre 2006 et 2015 pour des projets en Syrie et en Égypte. Le Centre international sur les conflits non violents n'apparaît plus dans les partenaires de Canvas. Mais messieurs Marovic et Popovic collaborent depuis 2003 avec cette organisation fondée en 2002 à Washington par messieurs Jack Duval et Peter Ackerman. Ce dernier est un ancien étudiant de Sharp, qui a fait fortune dans la finance et les obligations à haut risque. Lorsque son partenaire en affaires a été condamné à de la prison pour escroquerie, il s'est tourné vers la promotion de la démocratie. En 2005, il devient le président du conseil de Freedom House. Il succède à M. James Woolsey ancien directeur de la CIA et ambassadeur des États-Unis dans les négociations du traité sur les forces conventionnelles en Europe. Mais M. Ackermann n'a pas pour autant renoncé aux affaires et dirige encore deux sociétés d'investissement, Crown Capital Group et Rockport Capital. M. Popovitch a rencontré M. Duval et Ackermann pendant le tournage du documentaire sur Otpor, Bringing Down a Dictator, 2002. M. Marovitch a participé à la conception de deux jeux vidéo produits par l'ICNC, A Force More Powerful et People Power. Le concept est sommaire. Le monde abrite de méchants dictateurs et de bons démocrates, et il devient meilleur lorsqu'on se débarrasse des méchants. M. Marovitch a également produit un manuel pour l'ICNC, The Path of Most Resistance, le chemin de la plus grande résistance. En 2016, il a fondé RISE, une ONG spécialisée dans le conseil et la formation de mouvements sociaux. Les anciens militants ont été recrutés par des institutions ayant pignon sur rue, telles Freedom House ou des fondations privées comme celle de M. Soros. D'autres ont rejoint l'élite politique, voire le gouvernement de leur pays. M. Popovitch et M. Dinovitch dispensent des cours dans des universités américaines, notamment un cours en ligne à l'université Harvard. M. Popovitch a été élu en 2017 recteur de l'université de St. Andrews en Écosse. Il donne également une conférence par an à l'Académie des forces aériennes des États-Unis à Colorado Springs. Ma théorie reste la même. 4% des réussites d'un changement de régime sont obtenues par des moyens violents et 96% par des moyens non violents. Un jour, ses élèves auront à dire « Allez, on bombarde ou on ne bombarde pas ?» Si vous pouvez influencer une décision de ce type, alors vous sauvez de nombreuses vies, déclare M. Popovitch, qui a été cité pour le prix Nobel de la paix en 2012 avec Sharp. Le Forum économique mondial de Davos l'a distingué en 2014 parmi ses jeunes dirigeants planétaires, Young Global Leaders, et il figurait même parmi les 100 plus grands penseurs de la planète en 2011, selon la revue américaine Foreign Policy.
À la conception de l'émission, à la réalisation et à la mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable, Patrick Rion. En partenariat avec Radio Django, qui permet la diffusion des émissions de Tout le monde est beau.
Thank you.